dans vos jugements. Votre popularité pourrait chuter si vous n'y mettez pas plus de mesures. Sagittaire, la lune généreuse vous accorde son énergie dynamisante. Prenez cette opportunité pour régler ce qui doit l'être. Capricorne, vous devriez jouir d'une belle énergie et d'un tonus enviable. Alors mettez vos atouts en lumière, c'est le moment. Verseau, usez de diplomatie si vous souhaitez réellement qu'on vous apprécie. Votre forme morale est en baisse et vous manquez de sommeil. Poisson, une atmosphère paisible. Votre entourage familial apprécie cette situation de calme quand tout va bien, sans problème en vue.
Et d'autant plus quand il fait beau et qu'on est en famille pour un long week-end de mai. Merci beaucoup Bénédicte. Allez, bienvenue, bon réveil à vous sur Sud Radio, il est 7h.
Parlons vrai.
En d'autres termes, l'heure du premier journal de la journée avec Léo Ardourel. Bonjour Léo.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. C'est le monument hors région parisienne le plus visité en France. Le Mont Saint-Michel a encore attiré beaucoup de monde en ce long week-end prolongé de l'Ascension. Un flux que le site a appris à gérer au fil des années, comme nous l'explique le maire du Mont Saint-Michel. Des lunettes connectées qui permettent aux déficients visuels de mieux percevoir leur environnement. L'invention vient tout juste d'être récompensée au concours Lépine et ambitionne d'améliorer le quotidien des malvoyants. Et puis du foot, c'est la dernière de Kylian Mbappé ce soir au Parc des Princes. Son entraîneur Luis Enrique lui rend hommage. 100 000 visiteurs au total attendus en ce long week-end de l'Ascension. Le Mont Saint-Michel a encore une fois été plébiscité cette année par les touristes. Rien que jeudi, ils étaient entre 23 et 24 000 et devraient être encore plus nombreux aujourd'hui à la faveur d'une météo clémente. Malgré ses rues étroites, le site classé à l'UNESCO a pris l'habitude de gérer ce flux au fil des années, comme nous l'explique le maire Jacques Bonneau.
Les messages que l'on fait passer depuis quelques mois avec la mairie et l'établissement public sur l'étalement de la visite fait que le flux des 23 ou 24 000 personnes s'est étalé de 9h jusqu'à 22h. C'est entièrement gérable. Donc il y a déjà des communications faites sur les axes routiers et autoroutiers à l'approche du Mont Saint-Michel. Il y a effectivement à l'intérieur du Mont aussi un sens de circulation qui peut être mis en place, mais ça fait un flux tout à fait gérable.
Notez que les retours s'annoncent particulièrement compliqués aujourd'hui sur les routes, notamment pour les automobilistes quittant la Normandie, la Bretagne ou encore les Pays de la Loire. Bison futé classe la journée en noir sur tout le quart nord-ouest jusqu'aux Hauts-de-France. Le reste du pays est en rouge, il est conseillé d'éviter les principaux accents particuliers cet après-midi. Dans l'actualité, également pas de victoire, mais une très belle quatrième place à l'Eurovision pour Slimane. Le représentant français a offert un spectacle très émouvant hier soir lors de la finale du concours européen de la chanson. C'est la Suisse et son chanteur Nemo qui remportent cette édition 2024. Un concours marqué par la polémique suscitée par la participation d'Israël en pleine guerre à Gaza. La chanteuse Eden Golan a été sifflée d'ailleurs hier soir lors de sa prestation, ce qui ne l'a pas empêchée elle aussi de finir dans le top 5, juste derrière la France à la 5e place du classement. Pendant ce temps, des manifestations à Tel Aviv et devant la résidence de Benjamin Netanyahou, des centaines de personnes ont scandé des slogans hostiles hier soir à Jérusalem contre le premier ministre israélien l'accusant d'avoir abandonné les otages de Gaza. On apprend par ailleurs que 300 000 Palestiniens ont fui Rafah depuis mardi, alors que l'armée israélienne mène des incursions dans cette ville du sud de la bande de Gaza qui accueille des centaines de milliers de réfugiés. Retour en France, c'est la plus prestigieuse distinction pour les inventeurs. La 120e édition du concours Lépine a récompensé la start-up Arta France vendredi. Elle a mis au point un système destiné aux personnes malvoyantes, des lunettes connectées reliées à une ceinture qui permettent de mieux percevoir l'environnement. Les précisions avec Louis Deveron, cofondateur d'Arta France.
C'est composé d'un clip de lunettes qui va se mettre donc sur la paire de lunettes, qui va filmer l'environnement, donc par exemple le poteau dans la rue, la table chez soi. Et cette image-là va être envoyée dans une ceinture lombaire haptique. En fait, l'haptique, c'est la transmission d'une information via le toucher. Et donc, cette ceinture va reproduire, grâce à des pressions douces qui sont dans le dos, le dessin de l'image qui a été filmée par le clip de lunettes. La personne malvoyante ou non-voyante va pouvoir comprendre visuellement l'obstacle et l'environnement.
Un dispositif qui devrait être commercialisé à la fin de l'année. Le deuxième prix du concours Lépine a lui été attribué à une douche cyclique qui s'appelle Ilia. Elle permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie d'une douche jusqu'à 70% grâce au recyclage de l'eau. On passe au foot, ce sera un match très particulier ce soir au Parc des Princes. Kylian Mbappé va fouler pour la dernière fois la pelouse du stade parisien sous les couleurs du PSG. L'attaquant a confirmé qu'il allait quitter le club à la fin de la saison. Son entraîneur Luis Enrique lui a rendu hommage hier en conférence de presse.
Même si on nous a souvent opposés et Kylian Mbappé lui-même a démenti publiquement, je ne peux dire que du bien de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé le footballeur, Kylian Mbappé la personne. Et je peux comprendre sa décision. Cela fait 7 ans qu'il est ici. C'est une légende du club. C'est un joueur qui a tout donné au club et le club lui a tout donné. Et à la fin, c'est la vie. C'est comme ça que cela marche. Je le répète, je suis fier d'avoir vécu cette année avec Monsieur Mbappé.
Le PSG qui recevra donc Toulouse ce soir à 21h à l'occasion de l'avant-dernière journée de Ligue 1. À la même heure, on suivra Montpellier-Monaco, Nantes-Lille, Rennes-Lens, la réception de Lyon à Clermont, celle de Lorient à Marseille ou encore Strasbourg contre Metz. Voilà pour ce point sur l'info. Excellent début de journée sur Sud Radio.
Et c'est quand même drôle cette histoire du coach du PSG avec Kylian Mbappé. C'est toujours quand les gens commencent à partir qu'on commence à en dire du bien. Merci beaucoup Léo Ardourel.
Météo Sud Radio.
Bon, on en dit du bien quand il arrive. Lui, c'est Rémi André. Surtout quand il confirme qu'il y a encore du soleil. Ça va Rémi?
Oui, ça va, mais c'est en train de changer du soleil. On gardera encore un petit peu aujourd'hui sur l'est du pays, depuis l'Alsace, la Lorraine, jusque vers la Provence et la Corse, mais dans la journée, les nuages arrivent et seront de plus en plus nombreux. Alors des nuages, nous les avons déjà actuellement dans le sud-ouest, où ils donnent des averses. Alors attention, on a eu déjà des orages hier soir, et cela continue aujourd'hui. Un temps lourd et orageux qui se propage depuis le sud-ouest, jusque vers la Normandie, ensuite le bassin parisien. Cela remontera dans l'après-midi en direction des Ardennes. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, le temps est en train de changer avec donc tous ces orages. Ensuite, au niveau des températures, eh bien, elles vont commencer à baisser évidemment. Si hier on était partout largement plus de 20 degrés, eh bien aujourd'hui sur la partie ouest du pays, ça se rafraîchit. 19 degrés à Brest, il fera jusqu'à 23 degrés à Toulouse, 20 degrés seulement à Bordeaux, alors que nous atteindrons encore des valeurs supérieures à 27 degrés sur l'est, notamment du côté de Nancy.
Merci beaucoup Rémi André. Les pronostics hippiques de Sud Radio. On file à Paris-Longchamp ce matin avec Jean-Paul Delperrier, toujours, qui nous conseille cette fois-ci de jouer le 3, le 4, le 7, le 16, le 6, le 13, le 8 et le 12. Je répète, le 3, le 4, le 7, le 16, le 6, le 13, le 8 et le 12. Des pronostics hippiques à retrouver comme tous les jours sur sudradio.fr.
Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry.
Allez, bienvenue à vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h, on est ravis de vous accompagner. On va parler notamment politique, avec cette idée qui est poussée par Emmanuel Macron dans la tribune dimanche, discrètement, aujourd'hui, dans vos kiosques. Est-ce qu'un débat entre Marine Le Pen et le Président de la République pourrait vous intéresser, pourrait faire, pourquoi pas, tiens, basculer une campagne des européennes où la majorité présidentielle est décidément bien mal en point? Ben, vous votez sur Twitter et sur YouTube, vous nous appelez 0826 300 300. Avant de parler politique, on va parler des astres et plutôt du ciel. Il y avait encore quelques aurores boréales cette nuit sur la France. D'où vient ce phénomène? Comment l'expliquer? Tiens, est-ce que c'est inédit? On va en parler avec notre invité Olivier Lasvernias dans quelques minutes, mais tout de suite on salue la France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt pour le plus grand plaisir des gourmands et des gastronomes. Direction le pont du Château. On est dans le Puy-de-Dôme avec notre invité Rodolphe Rognaud. Bonjour.
Et bonjour.
Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le chef étoilé au Michelin de l'auberge du Pont à Pont du Château. Une auberge qui existe depuis 1835. C'est une véritable institution. Et en plus que vous tenez depuis près de 20 ans.
C'est ça, l'année prochaine on fêtera les 20 ans, donc ça fait un petit moment, et c'est vrai que c'est un ancien relais de batellerie en fait, donc donc c'est vraiment quelque chose d'emblématique où les marins en fait allaient charger les bateaux et partaient pour Paris chargés de charbon, de vin, de plein de choses en fait, et Pont du Château était le port de Clermont-Ferrand.
C'était le port de Clermont-Ferrand pour les mariniers en quelque sorte. Alors voilà. Tiens, les marins d'ailleurs, ça vous évoque quelque chose de votre enfance, parce que vous n'êtes pas auvergnat de naissance, c'est votre épouse qui est auvergnate. Vous êtes breton et vous avez atterri ici.
C'est ça.
Enfin, plutôt accosté si je dois dire.
Ah, tout à fait.
Comment ça s'est passé?
Eh ben, plutôt très bien. Non, non, c'est un vrai coup de cœur ici. La maison nous a énormément plu, l'endroit. Et puis on a l'Allier à côté, donc j'ai un peu d'eau. Il y a un peu moins de marée, mais j'ai un peu d'eau.
Ça vous manque pas trop les embruns? Tout va bien? Bah, depuis le temps, vous êtes habitué en plus, effectivement. J'imagine que ce sont des journées considérablement chargées, spécialement en cette période, puisqu'après tout, on commence les longs week-ends. Vous devez avoir davantage de clients que d'habitude, non?
Nous, on a la chance d'avoir une maison qui travaille toute l'année, mais c'est vrai qu'on a senti que le week-end avait été pris, pris d'assaut. Hein.
Alors effectivement, votre restaurant, où vous êtes une quinzaine dans l'équipe, hein, vous pouvez accueillir jusqu'à 80 personnes. C'est complet ce week-end ou pas?
Oui, c'est complet tout le temps. Donc,
c'est complet tout le temps, ce qui est formidable, j'imagine. Quelles sont les spécialités en ce moment que vous proposez?
Alors nous, en ce moment, on est sur... déjà, notre spécialité, c'est de faire des plats qui sont entre la Bretagne et l'Auvergne.
Ouais.
Donc là, en ce moment, on est sur une morille farcie, la langoustine, asperge.
Waouh, fabuleux. Asperge verte, asperge blanche?
Asperge verte, sur ce plat-là. Et mm-hmm. puis, on fait velouter des carapaces. On a un plat qu'on a appelé carrément cochon. Donc en fait, on est sur un filet mignon de porc qui est lardé, qui est cuit, qui mijote tranquillement. On a des poivrons de la planèse et un jus à la gentiane. Et on a amené une petite touche bretonne avec de l'andouille de Guémenée pour amener ce plat complètement cochon.
Vous avez marié la gentiane du coin à l'andouille de Guémenée et le cochon, évidemment. Ça, c'est presque un trait d'union entre les deux. Ces recettes qui sont vraiment un mariage entre votre région d'origine et celle de votre femme, vous les composez à deux?
Non. Elle les goûte, mais elle les valide. Elle les valide, ouais.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe, en toute logique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour ce week-end? Et tiens, pourquoi pas pour cette année?
Pour cette année, que ça continue de travailler comme ça. Et puis, voilà, de toute façon, on donne le meilleur chaque jour. On ne donne pas le droit à l'erreur, on fait tout maison. Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci.
Et ça, c'est quand même absolument formidable. Vous avez eu des aurores boréales ou pas dans le ciel du Puy-de-Dôme hier? Vous avez pu en voir ou pas?
Moi, j'en ai pas vu, mais j'ai vu des photos de gens de la commune qui en avaient fait, donc oui, effectivement, il y en avait.
Ouais, vous inquiétez pas, on est beaucoup de Français dans ce cas-là. On en a entendu parler, on les a un peu ratés, souvent quand on était en ville, en tout cas. Mais c'est fabuleux. Écoutez, on est ravis, en tout cas, d'avoir pu commencer cette longue journée avec vous, Rodolphe Regnault. Je le rappelle, chef étoilé de l'auberge du Pont à Pont du Château, dans le Puy-de-Dôme. Il faut combien de jours ou de semaines d'avance pour avoir une table chez vous, puisque c'est réservé en permanence?
Ça dépend, ça avec là sur le mois de juin. Là, on commence les week-ends, on arrive fin juin maintenant. Mm-hmm. La semaine, bon, on arrive une petite semaine avant, pas de problème.
C'est ça, bon, si on est pressé de vous voir, on réserve en semaine et on essaye de passer vous dire bonjour en tout cas. Peut-être qu'on vous reverra plutôt dans l'émission de Vincent Fernio. Fernio fait le marché tous les dimanches de 10h à 11h, le rendez-vous des gastronomes sur Sud Radio. Merci infiniment, Rodolphe Regnault.
Avec plaisir.
Et bon courage à toutes vos équipes, l'Auberge du Pont à Pont du Château dans le Puy-de-Dôme. Allez, à suivre sur Sud Radio, on parlait de ces aurores boréales. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais en tout cas, on va vous expliquer d'où elles viennent, pourquoi il y en a eu un peu partout en France. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio à Brignoles en DAB+.
Sud Radio. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. 7h.
Oh.
7h02.
Oh.
7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry.
Soyez tous les bienvenus dans le grand matin week-end sur Sud Radio. Dans quelques minutes, on va vous emmener au Portugal avec le petit futé Stéphane Zeremeta. Dans quelques instants, on va célébrer les 82 ans de Michel Fugain, à qui on souhaitera un bon anniversaire en compagnie de Jacques Pessis. Mais avant ça, on regarde à nouveau le ciel et surtout on le décrypte avec notre invité Olivier Lasvernias. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio, président de l'Association française d'astronomie. Quel spectacle ce week-end! Tout le monde ne l'a pas vu, sauf en photo. En tout cas, malgré tout, on a pu voir un ciel de pôle Nord avec des aurores boréales un petit peu partout en France dans la nuit ce samedi et encore un peu dimanche.
Alors, on en a vu énormément. C'était absolument incroyable. C'est un festival qui a eu lieu vraiment samedi matin tôt, quoi. En gros, enfin, à partir de vendredi 23h30, quelque chose comme ça. Et puis toute la nuit de samedi. Cette nuit de samedi à dimanche, je dois dire que c'était un peu décevant par rapport à l'incroyable festival de vendredi à samedi.
Bah, ce qui était logique, hein. On avait vu des photos, on a tous voulu regarder, du coup on a pu être qu'un petit peu déçus, on est arrivé trop tard. C'est quoi ce phénomène? Pourquoi d'habitude il n'y en a que sur les pôles, en tout cas près des pôles, et ensuite d'où ça vient?
Alors en fait c'est assez simple, en fait le soleil, notre soleil, en plus de nous fournir notre énergie lumineuse, il nous envoie aussi ce qu'on appelle du vent solaire, hein. ce sont des particules, des électrons ou des protons. Normalement il envoie un petit taux de ces particules, simplement il peut être très excité, le soleil en fait il a un cycle, il est normalement relativement calme, disons, avec c'est une bombe thermonucléaire au centre, mais finalement la, ce qu'on appelle la photosphère, sa surface, elle est à peu près équilibrée, heureusement pour nous. Mais de temps en temps, il y a des orages, des cataclysmes en quelque sorte à la surface du Soleil. Ça produit ce qu'on appelle des taches solaires. C'est observable avec un filtre spécial, hein. Et autour de ces taches, il se crée des espèces d'orages terribles qui font émettre des protons et des électrons. Ça arrive assez régulièrement en petite quantité, disons. Et ces protons, ces électrons voyagent tranquillement à leur propre vitesse jusqu'à la Terre. Ça prend en gros 2-3 jours. Et puis là, on est protégé sur Terre par le champ magnétique terrestre, en fait, qui les empêche de pénétrer, sauf au niveau des pôles. Au niveau des pôles, on a les lignes de champ magnétique un peu resserrées, donc ça passe en quelque sorte, voilà. Ça accélère les protons, les électrons. Et normalement, donc on voit passer les protons et les électrons, alors on ne les voit pas directement, mais ils excitent les atomes d'oxygène et d'azote qui sont dans la très haute atmosphère, vers au-dessus de 100 ou 200 km. C'est surtout d'abord l'oxygène, et puis quand ça descend un peu plus bas, c'est l'azote, ce qui explique les différences de couleurs.
Hein. C'est ce rouge qui donne haut, ce spectacle absolument poétique. Sauf que ce spectacle poétique, vous êtes en train de me dire qu'il provient en fait d'une éruption solaire énorme, d'un cataclysme.
Exactement, voilà, c'est ça, absolument, d'éruption solaire. Et c'est pour ça qu'on peut, on peut en gros prédire les phénomènes. D'abord, il faut être en période où le soleil est excité, donc là on est dans le cycle de 11 ans, on est au maximum d'activité solaire, et puis ensuite on a des systèmes qui surveillent en permanence le soleil, et on voit qu'il va arriver un orage magnétique quand ça va rentrer dans l'atmosphère terrestre, quoi. Donc là on était prévenu à partir de 2 jours avant. Oui. On est prévenu, il y a des sites d'ailleurs spécialisés qui permettent d'avoir ces infos-là. Maintenant il y a plein d'applis qui donnent des alertes. Et donc, on peut regarder en l'air. Mais en général, ces phénomènes-là, ils descendent pas tellement au-delà de l'Europe du Nord, voilà. Du Canada du Nord et du sud de l'Australie, quoi, en gros.
Voilà. Et pourtant, c'est arrivé jusqu'en France. Pourquoi? Parce qu'il y en avait davantage, que c'était plus fort, c'est ça?
Parce que oui, c'est ça, exactement. Okay. Le phénomène à la surface du Soleil, à l'intérieur et à la surface du Soleil, était beaucoup plus intense. C'est un orage de type G5, fort exactement. C'est comme les tremblements de terre, si on veut, il y a des échelles.
C'était une grosse tempête.
Une grosse tempête et ça descend jusque chez nous.
Alors j'ai plein de questions, j'aurai le temps de toutes les poser, mais vous n'auriez pas le temps de toutes y répondre. Donc on va essayer de hiérarchiser. Première question, j'ai souvent entendu parler de ces tempêtes magnétiques. Vous me dites que c'en était une, en quelque sorte, même si c'est peut-être un abus de langage, et que ça risquait de causer des dégâts sur nos systèmes électroniques. Là, il n'y en a pas eu, tout s'est bien passé.
Alors ça crée des perturbations, ça c'est sûr, sur les télécoms. Ouais. Et effectivement, ça, quand il y a des appareils extrêmement sensibles, ça crée un blackout, voire même ça peut avoir des effets sur les préamplis qui sont derrière les antennes.
Là, Sauf que là, ça a marché. Pour l'instant, ça passe.
Oui, voilà. Il y a sans doute eu du blackout radio, mais sans le...
Deuxième question, et elle est importante. On dit souvent que la France est protégée par son champ magnétique. Là, vous nous dites que malgré le champ magnétique, ça a pu passer. Est-ce que c'est dangereux pour la santé ou pas?
Ah non, pas du... Enfin, Soyons raisonnables. Disons que les phénomènes qu'on observe, ils sont quand même des phénomènes qui sont pas d'une intensité énorme. C'est beaucoup moins fort que quand on pose son téléphone près de son oreille, comme intensité électromagnétique.
Et c'est plus joli. C'est ce qu'on retiendra aussi. Troisième question, où est-ce que je peux aller pour me renseigner, pour savoir quand il y en aura de prochaines, puisqu'on est en période de maximum solaire après tout?
Il y a vraiment plein d'applications maintenant qui donnent des données. Et puis, il y a surtout les sites centraux. Il y a les agences spatiales et il y a un site américain, malheureusement pour nous, mais qui est le National Ocean and Atmosphere Administration, NOAA. Et donc, vous tapez Space Weather, météo spatiale, et vous avez toutes les informations, deux, trois jours avant. Il y a un truc qui s'appelle l'indice KP, qui est un peu comme un baromètre pour nous. Quand l'indice monte au-delà de 7 ou 8, ce qui s'est passé là, c'est très rare. Ça veut dire que ça peut être visible vraiment en France.
Et qu'on en aura plein la vue. Oui,
et ce qui est nouveau aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, ça vaut le coup d'essayer de photographier avec n'importe quel smartphone. Parce qu'en fait, effectivement, moi je prends par exemple mon cas, j'étais dans Paris, à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose. En revanche, dès qu'on prend son appareil photo, ça pose quelques dixièmes de seconde ou quelques secondes, et ça cumule la lumière et ça fait des photos fantastiques.
À condition de ne pas bouger, voilà, tout exactement. Simplement. Merci beaucoup Olivier Lazuernias. On vous retrouvera au prochain spectacle magnifique dans notre ciel. Je rappelle que vous êtes président de l'Association Française d'Astronomie. Je ne sais pas si on a vu les aurores boréales sur le Portugal, mais on en verra. On verra le paysage en tout cas dans un instant sur Sud Radio. Mais tout de suite, un anniversaire.
Je n'aurai pas le temps. J'ouvre tout grand mon cœur, j'aime de tous mes yeux, tant de cœur et tant de fleurs.
Je n'aurai pas le temps de Michel Fugain et on lui souhaite d'avoir encore longtemps le temps. Il fête ses 82 ans aujourd'hui. On en parle avec Jacques Pessis, la mémoire de Sud Radio. Bonjour Jacques.
Bonjour Jean-Marie.
On vous retrouve toute la semaine à 21h dans les clés d'une vie sur Sud Radio. Belle vie quand même que celle de Michel Fugain et qu'on souhaite longue encore.
Oui, et d'ailleurs, il prépare un nouveau spectacle et a terminé le dernier. Il commence le suivant. C'est extraordinaire. Et au début, son parcours n'était pas évident. En effet, pour les études, il a redoublé 3 fois en 11 ans avant d'avoir le bac et entamé des études de médecine qui ne l'intéressait absolument pas, parce que son père, Pierre Fugain, était médecin à Vorep, au-dessus de Grenoble. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la musique et le cinéma. Il monte à Paris et il décroche un poste de 3e assistant d'Yves Robert dans un film. Et ce film a une bande originale et c'est Fugain qui va chercher, c'est le compositeur, cette chanson, et fait écouter la maquette pour la première fois à Yves Robert. Et cette chanson, c'est celle-ci.
C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux. Des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord.
Ça doit être la chanson la plus fredonnée de France. Oui. Hein. Presque tous les Français la connaissent couplet par couplet. Hein.
Et Fugain était le premier à l'entendre. C'est quand même excellent.
C'est incroyable. C'est Brassens, hein, je précise, pour ceux qui n'ont rien doute, qu'on vient d'entendre. Mais Fugain était le premier à entendre les copains d'abord.
Parce qu'il a été chercher la maquette chez Brassens.
Incroyable.
Alors ensuite, il prend des cours d'art dramatique et il rencontre Michel Sardou qui veut chanter. Ils font des chansons tous les deux, ils font un disque totalement oublié qui passe inaperçu et Fugain fait cavalier seul. Et il commence à faire des chansons pour les autres et notamment, il va composer, tenez-vous bien, l'hymne de l'ouverture des Jeux Olympiques de Grenoble en 68. Et au départ, c'est un gag et résultat, à l'arrivée, c'est à Grenoble, devant des dizaines de milliers de personnes et le général de Gaulle, une chanson olympique interprétée par une certaine Christine Barr. C'est fou, hein?
J'imagine mal le général de Gaulle sur cette bande-son et pourtant...
Ah, il était là, mais c'était quelque chose. Oh, c'était autre chose qu'aujourd'hui, pardon de le dire. Alors, la chanson s'appelait « Sous un seul flambeau » pour votre histoire. Alors, chanter devant un micro, ça lui suffit pas à Fugain. Et d'abord, il crée une comédie musicale pour la télévision, « Un enfant dans la ville », qui est la première comédie musicale où on parle d'écologie à la télévision. Et puis, il auditionne 600 jeunes qui savent chanter, danser et jouer à la comédie, et il crée le Big Bazar. Il répète pendant un an et demi au dernier étage de l'Olympia, qu'on lui a prêté, la salle de danse. Et puis un jour, il manque un artiste en tête d'affiche, il y a un désistement. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle Fugain et le Big Bazar, qui vont débouler sur scène et faire un triomphe.
Sacrée joie de vivre.
Et la fête s'est en tournée puisqu'ils partent en tournée avec 40 tonnes de matériel, 12 camions et ils vont sous des chapiteaux de 3000 places à l'époque où les Zéniths n'existent pas. Résultat, 500 000 spectateurs en 6 mois et 4 mois à l'Olympia en guichet fermé et des disques d'or. Mais en même temps, Fugain, il change tout le temps. Il arrête le Big Bazar en 76, il crée la compagnie, à la fois un spectacle, danse et comédie, et puis il passe à autre chose. Il ouvre à Nice, dans les de la Victorine, une école de théâtre et de cinéma. Et résultat, il va trouver des jeunes talents. Et puis, après, il fait de la télévision, il arrête, il revient, il sait pas très bien ce qu'il va faire, et il fait des spectacles. Et à chaque fois, il dit, le spectacle, ce sera le dernier. Et puis, il continue parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Et il dit, je voudrais mourir vieux et fatigué. Et il dit, finalement, j'ai compris, il faut beaucoup de temps pour devenir jeune. Et le rester.
Eh ben, en tout cas, il est resté jeune. On a pu l'entendre et le constater ce matin sur Sud Radio. Bon anniversaire à nouveau à Michel Fugain, avec qui on va se quitter dans un instant. 82 ans pour Michel Fugain quand même. Merci à vous, Jacques Pessis.
Merci Jean-Marie.
Et à bientôt. On vous retrouve toute la semaine dans Les Clés d'une Vie à 21h sur Sud Radio. Quittons-nous donc avec Fugain.
Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Marie.
Directeur éditorial des guides Le Petit Futé, en route pour l'Alentejo ce matin au Portugal.
Absolument, on va dans le sud du Portugal, du littoral atlantique à la frontière espagnole. L'Alentejo, c'est la plus grande région du pays. Ce sont des paysages absolument incroyables. On est entre falaises, de larges plaines, des oliviers, des vignobles, des plages sauvages aussi. Il y a plein de petits villages très authentiques avec des grands personnages à rencontrer. Donc c'est une belle destination.
Alors c'est quoi la meilleure façon de découvrir la région?
Alors, c'est vrai que la région est assez vaste, hein, donc du coup il faut vraiment louer une voiture, hein, sinon vous allez vous galérer un tout petit peu sur place. C'est une destination assez idéale pour un road trip, pour faire aussi des balades à vélo, de la randonnée. Alors on l'a dit, il y a des plages, donc du Farniente aussi. Alors il faut savoir que c'est une région assez peu touristique, donc vous êtes sûr d'être assez dépaysé. On n'est pas du Lisbonne ou du Porto, où il y a beaucoup de touristes. Mmh. Sur le lac d'Alqueva, on va pouvoir louer aussi une bateau-maison, ça c'est plutôt sympa pour une nuit absolument insolite à la Belle Étoile. On a une observation du ciel qui est absolument superbe parce qu'il y a très peu de pollution d'éclairage aux alentours. Et puis sur les hauteurs du parc, on va aller flâner dans les ruelles du très beau village fortifié de Montsara. Plein de petites maisons blanches, c'est absolument mignon.
Exactement. C'est quoi les autres villages qu'il faut voir?
On a Elvas, qui est la plus grande ville fortifiée d'Europe. Et c'est qu'avant d'accéder à son centre historique, on va passer devant l'aqueduc d'Amoreira, qui est long de 7 km, 843 arches. C'est absolument fascinant. Et c'est vraiment superbe. On va démarrer. En fait, on a un superbe château d'origine musulmane. Donc, on va se perdre un tout petit peu dans les ruelles de la ville, de flâner. Il y a des façades qui sont blanches, orangé. On va aller jusqu'à la place de la République. Et elle est recouverte, elle, de carreaux bleus et ocre. Il y a la petite église Notre-Dame de l'Assomption, elle qui est de style baroque. Donc c'est vraiment une très très belle visite.
Bon, on a aussi le célèbre village d'Évora.
Évora, oui, qui est vraiment une ville musée. Alors toujours avec petite maison blanche, toit en tuiles rouges, un véritable dédale de rue. C'est un des rares villages finalement où l'aqueduc sert toujours à l'approvisionnement de l'eau. D'ailleurs, les maisons ont été construites sous les arches de l'aqueduc. C'est vraiment très joli. Il y a un temple romain qui témoigne des origines très lointaines de ce village. Donc là, c'est sur la place centrale et vraiment plutôt bien conservé. Et puis, il y a la cathédrale, c'est d'Évora, qui est la plus grande cathédrale médiévale du Portugal. Elle est vraiment très, très belle. Mmh. Et on va monter à pied jusqu'au toit de la cathédrale. Et on a une vue comme ça sur toute la ville et les environs. C'est très désertique autour, c'est superbe.
Bon, et le littoral?
Les paysages, là encore, c'est très différent. On a des hautes falaises qui nous cachent des petites criques assez sauvages, hein, de grandes étendues de plages de sable fin. En fait, il y a des plages un peu pour tous les goûts. Si on prend la plage des Trois Yagalais, là, c'est plutôt des eaux calmes. São Torpés, c'est plutôt les amateurs de surf. Hein, le Portugal, c'est une belle destination pour les surfeurs. Il y a aussi la plage d'Almograve, qui est une des plus belles du Portugal. Elle se divise en deux parties, côté falaise, des rochers sur la plage, et puis l'autre, des dunes de sable. C'est vraiment très, très joli.
Bon, mais formidable. Merci beaucoup, Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec le petit futé, direction...
Partant sur la Côte d'Azur, sera Saint-Tropez.
Et c'est magnifique, ça aussi. Merci beaucoup, Stéphane. À suivre sur Sud Radio, fin de long week-end, des fins de vacances du côté du département de Mayotte. Veille de rentrée scolaire à l'heure, malheureusement, d'une épidémie de choléra qui a tué un enfant cette semaine. On va en parler avec un enseignant. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
On va aux courses de chevaux dimanche? Il y a plein d'animations et c'est gratuit pour les enfants.
Dimanche 12 mai, venez faire la fête sur l'hippodrome de Carcassonne de 14h à 18h. Spectacle pour toute la famille. 06 08 89 47 68.
Pourquoi communiquer sur Sud Radio? Tout simplement parce que c'est la radio qui fait partie de mon quotidien. Et celui de millions de personnes aussi. Alors ça m'a paru évident.
Frappez un grand coup? Communiquez sur Sud Radio partout en France pour faire connaître votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Notre équipe est là pour vous conseiller. Régie@sudradio.fr.
L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio.
Allez, bon réveil, bon dimanche et bon week-end sur Sud Radio, il est 7h31.
Parlons vrai.
L'heure de retrouver les informations avec Nicolas Gomez cette fois-ci. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous. La France termine 4e de l'Eurovision. La finale se tenait hier en Suède à Malmö. Slimane défendait nos couleurs avec son titre Mon Amour. C'est l'artiste suisse Nemo qui remporte le concours cette année. En deuxième position, la Croatie. Israël finit 5e. Syndicats et patronats autour de la table mercredi sur le projet de congé de naissance. Le gouvernement annonce le lancement des concertations sur ce nouveau congé qui doit à terme remplacer le congé parental. Dans une interview cette semaine dans le magazine Elle, Emmanuel Macron avait déjà esquissé les premières grandes lignes. 3 mois pour les mères, 3 mois pour les pères, cumulables durant la première année de l'enfant. 3 morts et 8 blessés, le bilan d'une frappe ukrainienne à Donetsk, ville occupée par les Russes. 2 missiles américains ont touché un restaurant et tué 3 civils selon le chef de l'occupation russe. De son côté, la Russie avance aussi sur le terrain après le début de son offensive terrestre et revendique la prise de 6 villages dans l'est de l'Ukraine. En Tunisie, une avocate arrêtée en direct à la télévision par la police après des propos ironiques. Sonia Damani répondait mardi à un chroniqueur télé au sujet de migrants qui s'installent dans le pays. Elle a lancé « De quel pays extraordinaire parle-t-on ?» Des propos jugés dégradants pour l'image de la Tunisie sur les réseaux sociaux. Elle a été interpellée hier soir à Tunis en plein direct d'une journaliste à la maison de l'avocat. Petit souci technique sur le parcours de la flamme olympique hier dans les Alpes de Haute-Provence. Le chaudron ne s'est pas allumé à la fin du relais. La nageuse est médaillée à Londres. Ophélie Cyrielle-Étienne, dernière relayeuse, devait enflammer ce chaudron, mais rien ne s'est passé comme prévu. Les organisateurs évoquent un problème technique. La flamme a été été rapatrié dans une petite lanterne en attendant l'étape des Bouches-du-Rhône aujourd'hui. Et puis rien ne l'arrêtera en cyclisme. Nouvelle journée du Tour d'Italie hier. Tadej Pogacar remporte sa 3e victoire au sprint au sommet de Prati di Tivo. Le maillot rose a près de 3 minutes d'avance sur le 2e au classement général. Nouvelle étape aujourd'hui du Giro. Les coureurs s'élanceront d'Avezzano pour rejoindre Napoli. Bonne journée à tous.
Mais bonne journée à vous aussi. En tout cas, merci beaucoup Nicolas.
La météo Sud Radio.
Avec Rémi André, bon, si on voulait du soleil, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il fallait en profiter plutôt hier, c'est ça?
Ah, c'est exactement ça. Alors, vous en profiterez encore un petit peu ce matin sur la partie est du pays. On en profitera encore sur le sud-est cet après-midi. Mais globalement, eh bien, ce sont maintenant les nuages et l'air frais qui viennent de l'océan qui vont gagner du terrain. Alors, le conflit entre cet air frais qui est poussé donc par l'ouest et la chaleur que l'on a connue hier, eh bien, cela donne des orages depuis hier soir dans le sud-ouest, des orages qui poursuivent maintenant, enfin, plutôt sous forme de pluie ce matin, mais toujours cette tendance orageuse. Actuellement, c'est depuis l'Occitanie jusque vers les Charentes et cela continue de remonter en direction du centre, du bassin parisien, la Normandie, et dans l'après-midi, eh bien, tout cela ira plutôt vers l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est quasiment tout le pays, sauf le Sud-Est qui restera les cas, mais tout le pays qui est dans ce changement de temps avec donc des températures qui baissent très nettement à l'ouest du pays, pas plus de 19 degrés à Brest, on se limitera à 20 degrés à Bordeaux, alors que nous atteindrons encore sur la partie est des valeurs de 25 degrés à Marseille, 27 degrés pour Nancy et Strasbourg.
Bon, mais écoutez, bon barbecue à ceux qui pourront profiter du soleil. Et n'hésitez pas à l'allumer avec autre chose que la flamme olympique. Apparemment, ça marche mieux en tout cas. Merci beaucoup.
Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry.
Allez, bienvenue à vous sur Sud Radio. Bon dimanche, on est ravis de vous accompagner jusqu'à 10h. On parle notamment politique. Souhaiteriez-vous un débat, un nouveau débat, un troisième débat, la belle en quelque sorte, entre Emmanuel Macron, le président de la République, et Marine Le Pen, la patronne du Front National. En tout cas, c'est l'idée qui est poussée discrètement par le président de la République dans la dépêche dimanche. Est-ce que vous en voudriez ou pas? Pour l'instant, vous répondez plutôt non sur le Twitter de Sud Radio. On va en parler. En tout cas, ce serait un moyen pour le président de la République d'essayer de relancer une campagne des européennes pour la majorité présidentielle. Campagne des européennes, décidément bien difficile. On va parler de politique, évidemment, sur Sud Radio d'ici 10h, mais avant ça, on parle de la santé. Et plus précisément de la santé de nos compatriotes mahorais. Du côté de Mayotte, à la veille d'une rentrée des classes, puisque c'est la fin des vacances de Pâques, l'île toujours frappée par une épidémie de choléra. 60 cas, plus de 60 cas détectés sur l'île. Un enfant qui en est mort malheureusement en fin de semaine. L'épidémie contenue d'après le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Mais comment les enseignants se préparent avec à l'heure d'accueillir à nouveau leurs écoliers? On en parle avec notre invité qui s'appelle Clément. Bonjour Clément.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Prof de maths au collège, c'est ça?
C'est ça.
Vous êtes à Mayotte, dans le département de Mayotte, ou est-ce que vous êtes dans Mayotte?
Je me situe au nord.
Au nord de l'île. Bon, vous avez combien d'élèves? Vous avez quelle classe?
Ouf, j'ai six classes, avec 25 élèves par classe, donc ça fait quand même... pas mal de,
ça fait un beau programme.
D'élèves à gérer, oui.
Oui, c'est ça. Sixième, cinquième, quatrième, troisième.
C'est ça.
Voilà. Bon, vous avez pu partir pendant ces vacances ou pas?
Non, non.
Donc vous êtes resté ici. Quelle est l'ambiance sur place à l'heure où une épidémie de choléra circule, bien qu'elle soit contenue d'après les autorités? Mais à chaque fois qu'on entend ça, on est toujours un petit peu inquiet, évidemment. Donc comment ça se passe?
Alors, écoutez, on vit quand même normalement. On discute de la maladie entre collègues quand on se retrouve, mais si vous voulez, ce n'est pas c'est quand même pas le sujet qu'on aborde entre nous.
Donc c'est pas la psychose à ce stade à Mayotte. C'est important d'en parler aussi, parce que pour tous ceux qui sont loin, on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument dramatique et qui concerne absolument tout le monde à tout moment dans le département. Pour l'instant, on n'est pas au stade de la psychose, c'est ça?
Ce n'est pas le stade de la psychose, c'est quand même préoccupant. On est quand même inquiet. On se demande comment se passera la rentrée en fonction de cette reprise qui à Mayotte est quand même particulière à chaque fois.
Pourquoi elle est particulière, cette rentrée des classes à Mayotte?
Les cours à Mayotte sont particuliers parce que les bus ont tendance à se faire caillasser. Donc on n'est pas sûr d'avoir tous nos élèves. On a quand même un contexte qui fait que les années scolaires sont toujours particulières ici.
C'est quand même une situation, dramatique que vous nous décrivez. Vous n'êtes pas sûr d'avoir tous vos élèves parce que les bus, en gros, les transports scolaires sont attaqués. Ils sont attaqués par qui ?
Ce sont des délinquants, mais je pense que c'est plutôt un autre sujet qu'on aborde là.
Bien sûr, mais non, mais on parlait de votre entrée. C'est vous qui me disiez justement que vous étiez pas sûr d'avoir tous vos élèves. Ça vous arrive de voir des classes très incomplètes à cause de ce phénomène ?
Oui. Ça arrive régulièrement, mais on fait ce qu'on peut. Les élèves peuvent avoir. Dans les cours, on arrive à se débrouiller.
Mais écoutez, c'est l'essentiel. En tout cas, parlons de la santé. Revenons à cette épidémie qui circule. C'est quoi les méthodes de prévention, les gestes de prévention qui vous ont été communiqués ?
Alors, on évite les contacts, on se lave beaucoup les mains. C'est ce qu'on nous a transmis comme information.
Bon, c'est déjà ça, c'est des réflexes de bon sens qui prévalaient auparavant. On doit faire attention aussi, alors c'est difficile à Mayotte parce qu'il n'y en a pas toujours, mais à son approvisionnement en eau, j'imagine.
En eau potable aussi, oui, c'est vrai que ça aussi c'est un problème. On vit en ce moment avec 2 jours d'eau pour 1 jour de coupure.
Comment vous faites ? Ça change quoi ? Dans votre vie quotidienne, ça donne quoi ?
On achète beaucoup plus de packs d'eau pour la consommation, et on fait des réserves pour pouvoir se doucher, faire la vaisselle.
En gros, vous vous douchez avec de l'eau minérale, quoi ?
Non, on fait des réserves quand on a
des réserves d'eau potable, quand ça coule, vous remplissez des bassines. Ce qui est plus logique malgré tout. Quel est le moral de la population sur place quand même ? Parce que ça fait quand même un certain nombre de problèmes différents auxquels vous êtes confrontés tous les jours.
Oui, ça fait beaucoup de problèmes, mais on apprend à vivre avec et puis ça nous permet de relativiser aussi.
Oui, effectivement, nous aussi. Mais oui, ce qui est normal, nous aussi quand on vous entend. Écoutez, bon courage en tout cas à tous les Mahorais. Soyez prudents, surtout. On vous souhaite malgré tout une bonne rentrée dans les meilleures conditions possibles, Clément, d'accord ?
Merci.
Prof de maths dans un collège du côté du département de Mayotte. Tiens, vous avez, c'est quoi votre programme aujourd'hui, le cours que vous ferez demain pour la rentrée, un des cours ?
On va attaquer sur un classique, les fonctions pour les élèves.
Les fonctions, ça j'avais oublié les fonctions, vous voyez. Comme quoi ça me fait du bien aussi d'en reparler. Merci à vous et bon courage surtout Clément. À suivre sur Sud Radio, on va retrouver Catherine Bully pour un coup de cœur dans Il n'y a pas d'âge. Mais avant ça, Morad Aitabouche nous fait voyager sur le front du changement climatique, quelque part.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Avignon.
95.2.
Sud Radio.
Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche. Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offre disponible dans les magasins participants.
Sud Radio, comment va la planète ?
Bonjour Morad Aitabouche.
Bonjour Jean-Marie.
Réalisateur de la série Sale temps pour la planète. C'est sur France 5. Alors chaque semaine sur Sud Radio, vous sillonnez le pays et même le monde à la recherche de ce qui vous remonte le moral dans la lutte contre le changement climatique.
Ce qui me donne la patate, la banane, la pêche ce matin, ce sont des retraités qui vivent pépère du côté du canal du Midi. Nous sommes dans le département de l'Aude.
Allez, salut Georges.
Hop, salut.
Comment tu vas ?
Ça va.
Ça va ? Fait froid ce matin.
Regarde, il y a la gelée blanche partout.
Un petit coup de sécateur, nos amis retraités ont la main verte. Alain, Georges, Nathalie viennent chaque jour dans leur petit lopin de terre. Il est situé à proximité de leur barre d'immeuble. Ils sont 230, Jean-Marie, membres, et ils exploitent 6 hectares de terre pour produire des fruits et légumes bio. Et ce matin, vous garantis ça caille, mais ils sont là.
On va faire un petit café, hein.
Et pendant qu'Alain nous prépare le café bien chaud, j'en profite pour lui demander comment est née cette histoire de potager si singulière. Pour tout vous dire, elle démarre pendant la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. À l'époque, il fallait mettre du beurre dans les épinards.
En 1942, la SNCF demandait à ses cheminots d'utiliser les emprises autour des gares, autour des triages, tous les terrains qui n'étaient pas utilisés, pour que les cheminots puissent avoir de quoi subsister. Et aujourd'hui, il y a 85 centres comme celui-ci, avec une petite fierté, puisque celui de Narbonne est le plus grand de France. Tu veux boire le café ? On va partager. Ici, j'aime à dire qu'on cultive plus le lien social que les légumes, et c'est important.
Autour d'Alain, on parle évidemment de tomates, de carottes, d'astuces en tout genre, mais sans jamais se prendre le chou. Mais je ne vais pas vous raconter des salades, cher Jean-Marie. Parfois, ça pique un peu, surtout qu'aujourd'hui, dans le coin, il pleut de moins en moins. Alors, ils doivent ouvrir les vannes, mais seulement 48 heures par semaine, pas une seconde de plus. Alain prend alors la grosse clé. Il nous emmène ici à l'endroit où il va pouvoir ouvrir les vannes.
Physique. Faut la mériter, cette eau.
Oui, eh bien, c'est sûr qu'on la mérite, mais qu'on en gaspille aussi. Et donc, chaque litre qu'on prend dans le canal n'arrive pas au pied des plantes. Et donc, c'est ce que j'appelle du gaspillage alors qu'on est en manque d'eau.
Grâce à Alain, les membres ont compris qu'il fallait rationner l'eau qui ne coule plus du tout comme avant. Et encore, ici, les jardiniers ont de la chance car ils disposent du canal de la Robine, qui est un bras du canal du Midi, géré par les voies navigables de France.
Un canal comme celui-ci, il est toujours plein, parce que VNF a besoin de le laisser plein pour pas que les berges ne s'effondrent. Mais ça veut pas dire qu'il y en a beaucoup de l'eau. Ce canal, il est précieux, mais il faut qu'il le reste. Allez. On va gratouiller un peu.
Il gratouille, mais ça gratte parfois. Et oui, la terre est sèche par ici.
Au mois de novembre, j'ai jamais vu ça. En 10 ans, on n'a jamais eu de restrictions à cette période de l'année.
Ça sent un peu la fin des haricots. Moins d'eau, moins de fruits et légumes, et les carottes sont cuites, ou presque. Georges, en tout cas, lui, refuse d'imaginer le pire.
Si un jour il n'y a plus d'eau, on ne pourra plus venir au jardin. Et là, franchement... Ça sera un coup de poignard qu'on me donnera, parce que le jardin, pour moi, c'est depuis 13 ans que j'y viens. J'y passe beaucoup, beaucoup d'heures. Je viens tous les jours. J'ai beaucoup de plaisir à travailler la terre, à toucher la terre. Ça m'a plu beaucoup. Le jour où je ne pourrai plus revenir, eh ben, je ne serai pas... Rien que d'en parler, ça me fout le poil. Ouf, voilà. Je ne suis pas prêt à m'arrêter.
Ça me fout le poil, c'est une expression que connaît bien notre ami Julien qui réalise cette émission. Belle expression pour dire que ça lui fout un peu la trouille. Mais heureusement, Alain le Président a su ménager la chèvre et le chou et éviter une guerre entre les différents usagers de l'eau du canal du Midi. Il y a l'eau potable pour la population, l'eau de nos jardiniers amateurs et celle pour nos agriculteurs.
On doit changer les pratiques pour l'économiser l'eau. Et la guerre entre les voies navigables de France, les jardiniers amateurs, les agriculteurs, on commence à se comprendre les uns les autres.
Avec les canicules, les sécheresses à répétition, les pratiques sont désormais plus responsables. Elles apaisent même les tensions entre usagers. Une paix des braves avec les agriculteurs. Chacun a mis de l'eau dans son vin. C'est le cas de Christian Contour, le président de l'Union locale des syndicats vignerons, qui vient ici à notre rencontre.
Salut Alain.
La poignée de main, vous étiez ennemi avant.
On va pas dire ennemi, on va dire qu'il y avait des tensions sur les consommations d'eau en général, quoi.
Ce sont des partenaires, ce sont plus des adversaires. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille intelligemment et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ces installations.
Les installations dont il parle, c'est un système qui permet le goutte à goutte dans toutes les parcelles.
Alors ça, c'est la nouvelle manière d'irriguer.
On va prendre l'eau qui nous est amenée par le nouveau système avec la station de pompage le long de la robine. On va pouvoir faire du goutte à goutte.
Mais pour que ça fonctionne, Jean-Marie, il faut une station de pompage. Mmh. Coût de l'opération, 10 millions d'euros. Beaucoup d'oseille et de blé pour que ça fonctionne.
Allez, ouverture du coffre-fort. De ce côté, il y a toutes les pompes. Et puis de l'autre côté, là, c'est des filtres parce qu'on a quand même des eaux un peu chargées. Donc on a une pré-filtration pour envoyer dans le réseau une eau relativement propre, même si après il y a une filtration à la parcelle.
Cette centrale a été mise en place en partenariat avec les Voies Navigables de France. Leur credo commun, considérer cette ressource comme un trésor.
On économise à fond, même en hiver, puisqu'on est au mois de novembre, on a les mêmes débits dans l'Aude que ce qu'on a au mois de juillet.
Christian, Alain, personne ici ne ramène sa fraise avec le réchauffement planétaire. C'est sûr, c'est plus dur qu'avant.
Quand on voit les moyens qu'il faut y mettre pour que la ressource elle soit préservée, on en prend encore plus conscience. Surtout quand on voit, comme le dit le président, qu'en hiver, il n'y a pas d'eau, ou très peu. Là maintenant, moi je suis convaincu qu'il faut aller vers ça, partout.
Partout, c'est-à-dire sur toutes les terres à proximité du canal. 1600 hectares, soit 2300 terrains de foot. Christian Contour fait partie des viticulteurs qui peuvent disposer des eaux du canal. Il nous emmène ici, dans ses vignes.
Pour faire une plaisanterie, mine de rien, je ne suis pas Jésus, mais je marche sur l'eau. Puisqu'en effet, la canalisation de la station, qui est à 4 km, passe ici et vient distribuer donc à la borne. Et là, vous avez tout le dispositif de distribution aux différentes parcelles qui se trouvent là. Et là, sur cette parcelle qui est irriguée, on s'aperçoit que je ne vois pas très loin parce que la végétation est dense. Ça veut dire que la vigne était en bonne santé, qu'elle a pu mûrir ses raisins correctement.
Mais dans la parcelle, juste à côté de la sienne, les cépages souffrent. Un jour, son voisin et sûrement d'autres producteurs de vin de la région devront arracher leurs vignes à crève-cœur. Mais il y a peut-être des solutions. Les chercheurs français travaillent pour mieux adapter les terroirs à cette réalité climatique en cours. Et c'est tant mieux. C'est le temps pour la planète.
C'est le temps pour la planète, mais il y a une chose qui restera toujours belle, en tout cas, et c'est le canal du Midi. Ça, c'est magnifique, en tout cas. Merci
Exactement.
Beaucoup. Morad Aitabouche, on peut retrouver tous vos reportages dans la série « C'est le temps pour la planète ». C'est diffusé sur France 5. À dimanche prochain.
Cochenou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente.
Et bien tout de suite, on retrouve Catherine Bully, la pétillante Catherine Bully pour Il n'y a pas d'âge. Bonjour à vous ma chère Catherine, aujourd'hui vous avez un coup de cœur à nous proposer.
Et oui Jean-Marie, en effet il y a un sujet qui m'interpelle ce matin, c'est l'incivilité. Je devrais même dire l'agressivité au volant qui ne cesse d'augmenter. Alors, vous le savez, 88% des conducteurs ont peur de l'attitude du comportement que certains chauffeurs pourraient avoir à leur encontre. Si on s'en réfère au 14e baromètre de la conduite responsable publié par la Fondation Vinci Autoroute, dont Bernadette Moreau d'ailleurs, qui est la déléguée générale, nous parlera tout à l'heure. Mais avant cela, je voulais voir l'agressivité, l'incivilité qui augmente. Jean-Pascal Assaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et expert pour le Conseil national de sécurité routière. On est tous témoins de la montée de cette incivilité. Insultes, doigts d'honneur, ce sentiment de toute puissance au volant. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on rentre dans une voiture, on devient différent, on devient bête. C'est pourquoi?
Oui, effectivement, pendant très longtemps, on s'est demandé si le style de conduite reflétait la personnalité. Si quelqu'un qui était agressif dans la vie en général était agressif au volant,
oui.
Ou si quelqu'un qui était très très pacifique dans la vie en général le devenait. Alors effectivement, il y a que deux sous-groupes de conducteurs pour lesquels il y a cette correspondance, c'est les délinquants et les exclus. Eux, ils ont tendance à être dangereux sur la route et agressifs sur la route et dangereux et agressifs dans le reste de leur vie. Par contre, ça, on parle de quelques centaines de milliers de gens, mais par contre, effectivement. Les conducteurs en France, c'est 40 millions de personnes. Et donc là, si on élargit sur l'ensemble des conducteurs, on voit bien qu'effectivement, là, peut y avoir des discordances, c'est-à-dire que des gens qui sont absolument pas agressifs et dangereux dans la vie en général
le deviennent
au volant, parce que la voiture va créer quelque chose de spécifique, va isoler les êtres humains les uns des autres. Et c'est peut-être aussi ça qui rend quelque part l'étude du comportement routier intéressante, c'est que la voiture change l'homme et va créer des comportements, des croyances différentes du reste de sa vie.
Incroyable. Bernadette Moreau, ce 14e baromètre montre une augmentation de 16% des personnes tuées sur la route si on compare avec le premier trimestre 2023. On a l'impression que les campagnes de la sécurité routière, pourtant qui sont très dures quand même, elles n'arrivent pas à déclencher de réaction.
Alors, ce résultat du nombre de morts au premier trimestre 2024, il a été publié plutôt par la sécurité routière.
Oui.
La Fondation Vinci Autoroute, elle s'est intéressée dans ce baromètre au comportement déclaré par les conducteurs. Mais je pense que, comme d'autres, la Fondation Vinci Autoroute mène des campagnes de sensibilisation. Il faut se dire qu'en matière de prévention, il faut répéter les sujets, se dire que le faire avec humilité, mais avec conviction. Et se dire que les campagnes doivent notamment informer sur les risques,
oui.
Donner le sens de la règle, expliquer le sens de la règle de façon à ce que les conducteurs n'aient pas le sentiment qu'ils subissent la règle, mais que plutôt elle est là, le code de la route est là pour les protéger. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement faire et
redire.
Voilà. Il faut se dire qu'il ne faut pas lâcher sur ces sujets-là. Et se dire qu'on arrive toujours à attraper des gens et à les convaincre qu'il faut qu'ils améliorent leur comportement.
Justement, quels sont les comportements à risque les plus fréquents qui sont souvent la cause de décès ?
Alors, il y a bien sûr l'excès de vitesse, hein, et 91% des conducteurs français disent qu'il leur arrive de dépasser de quelques kilomètres heure la vitesse. La vitesse, il faut se considérer qu'elle est toujours un facteur aggravant dans un accident, et que donc, bien sûr, si la vitesse est moins importante, les blessures ou a fortiori les décès vont être moins nombreux. Ce qu'on voit dans ce baromètre, dans cette édition 2024, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu les années précédentes, mais c'est, j'irais, l'inexorable montée de l'usage du smartphone et du téléphone au volant.
C'est dingue, ça.
Puisque par exemple, 87% des 65% des conducteurs téléphonent au volant, c'est 11 points de plus qu'en 2018. C'est-à-dire que les conducteurs n'arrivent pas à considérer que quand ils sont au volant, il faut qu'ils soient
complètement
concentrés,
absolument, à 100%
à la conduite. Voilà.
Et alors ça, nous en France,
ça a des conséquences, bien sûr.
Et nous en France, on est isolés avec ce sondage, ou bien est-ce que nos amis européens sont sur la même ligne ?
Alors je dirais que selon les pays, il peut y avoir des comportements différents, peut-être des cultures différentes, les réglementations aussi sont différentes, et ça crée forcément des différences dans les résultats. Mais en matière d'incivilité, par exemple, puisqu'on parlait d'incivilité, oui. On peut considérer que le meilleur, et d'ailleurs ils ont des très bons résultats en matière de sécurité routière, ce sont les Suédois. Qui sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes au volant, et leurs résultats sont très très bons en matière de sécurité routière. Et en revanche, les pays qui sont les moins bons en termes d'incivilité, eh bien, ce sont la Grèce en premier, puis la France, l'Italie et l'Espagne ex aequo.
On est quand même en bas de l'échelle.
Voilà, on est quand même Absolument. En bas de l'échelle, et on peut progresser dans ce domaine-là. Et on voit bien que quand on est plus serein, plus calme au volant, même si c'est difficile, comme le dit Jean-Pascal Assailly, eh bien, il faut essayer d'aller vers ça, parce que on fera baisser le nombre d'accidents de façon certaine.
Bon, alors on va se retrouver tous les trois avant les grandes vacances autour d'un sujet beaucoup plus important, parce que malheureusement le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Mais vraiment, c'est un sujet hyper intéressant. Merci à tous les deux. Merci Jean-Pascal Assailly, psychologue expert pour le Conseil national de sécurité routière, Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute, pour cet éclairage. À bientôt. Et Jean-Marie, on se retrouve tout à l'heure avec mon camarade David sur des sujets importants. On va parler d'un médicament, l'Androcur, ou les médicaments contenant des progestatifs comme l'utéran, l'uténil. Attention, si vous en avez pris, il y a des risques de tumeur cérébrale. Et Laurent Romeschko sera avec nous. L'arrêt des chiffres et des lettres ne peut pas nous laisser insensibles. À tout à l'heure.
Oh, quelle tristesse, effectivement. Merci Catherine Bully. On vous retrouve à midi tout à l'heure en compagnie de David Arthur.
Sud Radio, y a pas d'âge.
Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou,
un petit coup de chez nous. Il est 7h57 sur Sud Radio. Allez, plusieurs informations. D'abord, vous entendiez Morad Aitabouche vous emmener le long du canal du Midi pour vous expliquer que finalement la guerre de l'eau n'y aurait pas lieu. Sachez que le documentaire « C'est le temps pour la planète » sera diffusé sur France 5 le lundi 3 juin. Voilà, trois jours avant l'anniversaire du débarquement. Comme ça, vous pourrez retenir la date et prendre le rendez-vous. À suivre sur Sud Radio, Muriel Réus et son invité, la force de l'engagement. On va parler d'un phénomène dont on parle trop peu, les violences psychologiques parfois qui s'exercent sur les enfants de couples qui se séparent. Comment les prévenir? On va en parler avec l'invité de Muriel Réus. Ce sera juste après le journal de 8h et la revue de presse de Morgan Thomas. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, ben c'est une super nouvelle.
Sud Radio, parlons vrai.
Chez Securitest, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Securitest fait son grand jeu des as de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur securitest.fr. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Sud Radio Nice 97.9 et en DAB+.
Sud Radio.
La Vie Claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, bougez plus.
L'horoscope Sud Radio.
Mais bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 12 mai, Bélier. Aujourd'hui, vous décidez de voir la vie en rose et vous avez raison. Profitez de ces sentiments amoureux sans penser au lendemain. Taureau, votre besoin d'évasion peut vous faire oublier des choses importantes. Ne vous dispersez pas aux quatre vents. Gémeaux, aujourd'hui, jovialité et amusement sont au programme de la journée. C'est le moment de profiter pleinement de la vie. Cancer, réconciliation et bonne entente sont au rendez-vous. Vous vous montrez plus détendu et plus disponible pour vos proches. Lion, les planètes vous chahutent. Heureusement, une grande créativité vous aide.